c'est bon.
C'est pas vrai, non, Mathieu, t'as gagné.
Dude!
Mathieu, le midi.
Peux-tu me donner le nom du gardien des Bruins de Boston?
Et le match?
Il y a combien
tous
de
les
buts,
jours,
Marc?
Tous les jours.
Il y en a plus que Drouin, c'est là que tu vas?
Ouais.
Oui, c'est là qu'il va tout le temps. Il est pas capable de faire un show sans revenir là-dessus.
Il débosse pas. Gravel dans le retour.
Depuis quelques jours, nous sommes également disponibles sur la bande FM à la grandeur de la région de Québec. On n'était même pas sur le AM avant, mais on s'est finalement rendu sur la bande MF.
Sacré Mathieu. Aussi, Mathieu Marcotte, Dan Deman et Thomas Gauthier. Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec. Merci d'être là. Bon jeudi, en espérant que vous ayez profité de la journée qu'on a eue aujourd'hui. Il y avait du soleil, ça fait du bien, ça fait du bien. Amenez-en de la lumière, on en a manqué cet hiver. Puis là, ben, c'est le temps du renouveau, c'est le printemps. Pour les prochaines 60 minutes, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui s'appelle Patrick Provost, qui est professeur titulaire au département de microbiologie et infectiologie et immunologie à l'Université Laval. Salut, prof!
Ouais, bonjour, Yannick.
Comment ça va?
Ça va très bien,
dans les circonstances. On aura l'occasion d'en parler pendant plusieurs minutes de ces fameuses circonstances-là. Mais Patrick Provost, c'est un individu qu'on entendait rarement jaser là, il y a de ça 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est un professeur, un chercheur à l'Université Laval qui a découvert des trucs. Là, j'ai appris ça, la ribonucléase d'ICER, c'est ça?
Oui, d'ICER.
Dicer, en 2002,
ouais.
Moi, c'était fait d'armes que j'ai retenu en faisant certaines recherches, mais Patrick Provost, c'était un illustre inconnu, et maintenant, tout le monde entend parler de Patrick Provost. Est-ce que tu t'attendais en tant que prof, en tant que bébite de laboratoire, qu'un jour, tu fasses la tournée des médias et que tu fasses tant jaser?
Non, ben en fait, j'aurais aimé faire jaser davantage pour mes travaux de recherche.
Ouais.
Et puis en fait, pendant les 21 années précédentes, là, j'ai quand même mené des travaux de recherche originaux qui se sont mérités plusieurs nominations, dont 3 découvertes de l'année.
Mm-hmm.
Donc, la dernière, là, en 2021, là, pour la découverte d'une nouvelle classe d'ARN, donc que personne n'avait découvert jusqu'à maintenant. Donc, tu sais, c'est quand même... J'ai toujours mené un petit laboratoire et je me distinguais par l'originalité de mes travaux en ayant des idées qui sortaient un peu des sentiers battus. C'est de cette façon-là que je me suis fait un nom, que j'ai réussi à maintenir une carrière productive, là, enrichissante là, depuis 21 ans.
Patrick Provost est devenu chercheur. Pourquoi? Comment il était au secondaire, Patrick Provost? Il était-tu intéressé par le travail en biologie et tout ça?
C'est le cours de biologie en secondaire 3.
Okay.
Il m'a marqué. Et là, je suis tombé en amour avec le corps humain. J'ai toujours cherché à comprendre comment ça fonctionnait, cette merveilleuse machine-là. Et j'ai toujours été très curieux, toujours à poser des questions, essayer de comprendre et tout ça. Et justement, la profession de chercheur satisfait ce besoin-là.
Oui. Puis est-ce que c'est comme dans les films, c'est que vous êtes des rats de laboratoire, vous travaillez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec vos sarraux, vous faites des essais, des erreurs, vous faites des hypothèses?
Oh oui, mais c'est pas mal ça, je voudrais dire, parce que la profession de chercheur, c'est quand même très exigeant.
Ouais.
Et ça exige beaucoup de sacrifices. Donc, j'étais vraiment passionné par ça et je me suis investi à fond. Et puis, ça m'a mené où est-ce que je suis aujourd'hui.
Professeur à l'Université Laval.
Oui.
OK. Puis enseigner, c'est une autre façon de faire aussi?
Bien, l'enseignement, c'est vraiment génial parce que ça permet de communiquer ton savoir, transmettre ton savoir aux prochaines générations, aux jeunes étudiants. Et dans le cadre des cours, on voit les étudiants s'allumer là, quand on leur transmet des connaissances. Même chose quand je forme des étudiants en maîtrise, doctorat, principalement doctorat, on voit là, l'évolution au fil des années. C'est vraiment spectaculaire. Je suis vraiment choyé de pouvoir voir ça. Là. Tu vois les étudiants qui arrivent dans ton laboratoire, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Ils sont un peu verts, si on veut.
Ouais.
Et là, au cours des années, ils progressent. Tu les vois gagner en assurance, évidemment en connaissance et en confiance. Et c'est vraiment merveilleux de voir ça, l'épanouissement des jeunes étudiants qui en sortant avec leur diplôme au doctorat, là, c'est vraiment des scientifiques là, qui sont prêts pour l'aventure, prêts pour une aventure indépendante.
Et quand on forme des chercheurs, bon, j'imagine qu'au départ, comme tu l'as dit, Patrick, puis là, je te tutoie, mais tu as entendu tantôt quand on s'est rencontrés, j'étais dans le vouvoiement. Là, pour l'exercice, je te tutoie, mais normalement, je te vouvoie, OK? puis permets-moi de te vouvoyer. Quand tu reçois ces étudiants-là qui sont des green, puis là, tu te dis, ben nous, ce qu'on fait, c'est former des chercheurs. Est-ce qu'à la fin de leur cursus scolaire, est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce que où ils ont leur propre route, puis c'est ce que vous leur apprenez à avoir leur propre route, puis à douter constamment, à se remettre constamment en question sur les travaux qu'ils font?
C'est certain que pendant la formation que je leur donne, là, ils sont amenés à penser de manière autonome, de manière indépendante. La pensée critique est au cœur de la formation. Quand je les entraîne toujours à douter. Hein? Mm-hmm. C'est, en science, c'est ça. Hein? En premier, c'est douter, d'émettre des hypothèses et de ne pas avoir peur d'émettre des hypothèses un peu, presque farfelues, je dirais, ou très risquées. Parce que c'est ça qui est la beauté de la recherche. C'est facile, la recherche, de répéter ce que d'autres ont déjà fait. Mais c'est beaucoup plus difficile, mais c'est beaucoup plus aussi stimulant d'aller dans des voies qui ne sont pas encore explorées. Et c'est là qu'on peut repousser la frontière du connu. Et c'est ça qui m'allume, moi, comme chercheur. Et c'est ça que c'est cette passion-là que je tente de communiquer aux étudiants en formation. Et tu vois, chaque étudiant, il n'y en a pas un de pareil. Hein. Chacun a ses forces, ses faiblesses. Mm-hmm. Chacun va développer mieux que d'autres certains aspects de leur capacité comme chercheur. Mais en bout de ligne, ils ont chacun leur couleur, en fait, et leur force. Et être chercheur, c'est que tu finis pas ta formation, puis c'est fini. Tout au long de ta carrière, tu n'arrêtes pas de peaufiner ta formation. Moi, j'ai encore des choses que j'apprends là, de jour en jour. J'apprends toujours, je me perfectionne.
C'est la beauté du métier de chercheur.
Exactement, exactement. Puis il n'y a jamais une journée qui est pareille comme l'autre. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant.
Mais ça demande quand même du courage pour un chercheur de prendre, je ne sais pas moi, une hypothèse qui a été qui a paru dans Nature, puis qui a été comparée par des pairs, puis qui a été acceptée. Puis là, tout le monde a dit, ça a bien du bon sens. Puis là, toi, tu prends ça, puis tu te dis, attends un peu, je vais remettre en doute l'ordre établi, là, ce qui a été mis en place. Puis malgré le fait que cette étude-là a été comparée, puis ça a été accepté, je vais la remettre en doute. Ça ne doit pas faire l'affaire de tout le monde, mais c'est quand même la base de votre travail.
Ben oui, parce que, tu sais, comme par exemple la découverte qu'on a faite avec la nouvelle classe d'ARN, oui. Bon, on était les premiers à les découvrir.
Est-ce que c'est la même chose que l'ARN messager, ce qu'il y avait dans nos vaccins?
Oui, l'ARN messager, c'est juste un type d'ARN.
OK.
Donc, tu sais, on a l'ADN qui est transcrit en ARN,
oui.
Et ensuite l'ARN qui est traduit en protéines. Donc, l'ARN messager, c'est juste un type d'ARN qui a la particularité de coder pour des protéines. Mais moi, je m'intéresse aux ARN régulateurs, des petits ARN qui vont réguler l'ARN messager.
OK.
Donc, juste pour apporter cette distinction-là.
Je comprends. Donc, quand on prend quelque chose, parce que toi, tu es apparu pendant la pandémie, là, moi, c'est là où le projecteur a été mis sur toi, puis tu remettais en doute certaines choses que les médias mentionnaient, même ceux qui ont l'impression d'être des génies, là, les éditorialistes qui disent « Non, mais c'est bon, les vaccins pour les enfants. » Tu disais « T'as peu, là, moi, je suis chercheur, on doit se remettre en doute constamment. » Puis quand je regarde ça, j'ai l'impression que de vacciner les enfants, il peut y avoir des effets plus négatifs que de positifs là-dedans. Tu allais un peu à l'encontre de ce qui se disait dans les médias, puis de ce que le gouvernement nous disait, là, ça prenait énormément de courage. Puis d'ailleurs, tu as dû payer pour le courage que tu as eu au départ.
Oui,
tu payes encore.
Oui, je paye encore. Mais en fait, tu sais, quand arrive comme ça un nouveau produit pharmaceutique, là, en l'occurrence les vaccins COVID-19, c'est une nouvelle technologie,
mm-hmm.
ARN messager, ça n'a jamais été déployé aussi largement, aussi rapidement. Et en fait, la particularité, c'est que cette technologie-là, ARN messager, était appliquée à des fins vaccinales. Et c'est là, moi, que j'ai mes réserves, j'ai beaucoup de préoccupations, beaucoup de questionnements, parce que on n'a pas aucun recul sur ces vaccins-là.
On ne connaît pas les effets à long terme.
À des fins vaccinales, on n'a pas beaucoup de recul. Et donc, Et là, quand on, c'est toujours une évaluation des risques et des bénéfices. Mm-hmm. Hein, c'est pour toute intervention, tout médicament. Est-ce que je vais retirer plus de bénéfices à le prendre que à ne pas le prendre et versus les risques? Et c'est une évaluation qui est subjective. Hein? On ne donne pas la même pondération à certains risques. Comme par exemple, moi, ce qui me préoccupe énormément pour les enfants, c'est les effets à moyen et à long terme. Parce que les enfants ont toute la vie devant eux. Là. Donc, c'est une évaluation qui, vraiment qui doit être très différente des personnes âgées, par exemple. Ou est-ce que la vie est plutôt derrière eux? À ce moment-là, s'il y a un risque connu, eh bien, évidemment, ça va impacter l'enfant beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante qu'une personne âgée. Donc, c'est dans ce calcul-là. Et aussi, bon, par exemple, par rapport à la COVID-19, mais les enfants, s'ils sont exposés, dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas de complications. Et ce qu'ils acquièrent, c'est l'immunité naturelle, qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus durable, beaucoup plus efficace que l'immunité vaccinale.
Pourquoi tes propos, ça dérangeait? Parce que j'imagine que, tu sais, Patrick Provost qui se présente devant les médias, qui émet des opinions dans des lettres, puis ça, c'est lu. Puis là, les policiers n'étaient pas contents. Certains propriétaires de médias, même un directeur général d'un média en particulier, lit ça. Ça aurait peut-être pas dû être dans le journal, ça, cette affaire-là. Décide de l'enlever. Pourquoi les gens n'étaient pas d'accord avec les hypothèses que tu amenais?
Bien, moi, c'est ça que je déplore. C'est que on dirait que... Pour la COVID-19, en tout cas, il est plus possible de mener de débats, d'avoir des débats sur la place publique au sujet de la gestion de la crise, des décisions ou des vaccins. Et pourtant, on est capable de débattre de toutes sortes de choses.
Oui.
Hein, encore.
En fait, si on était...
la culture, oui. Bon, on aimait.
Mais si on était en France, un gars comme Patrick Provost aurait été invité sur toutes les tribunes.
Ben moi, c'est tout ce que je demande à ce que mes arguments soient entendus. Mes questions sont légitimes. Tu sais, il y en a que j'ai une expertise en ARN et en nanoparticules lipidiques. Donc, ça fait 10-20 ans que je travaille là-dedans.
Ouais.
J'ai des connaissances quand même importantes et j'ai des questions qui sont fondées là-dessus. Et là, ce que je réalise, c'est que ma voix ne peut pas être entendue. Et donc, je remercie les médias alternatifs de me donner des tribunes pour que je puisse m'exprimer parce que c'est comme si je ne veux pas utiliser le terme de lanceur d'alerte parce qu'en tant que professeur d'université, je devrais être en mesure d'exercer ma liberté universitaire.
Oui.
Mais présentement, ma liberté universitaire elle est contrainte par l'Université Laval qui m'impose des sanctions.
Mm-hmm.
Et je ne peux pas l'exercer pleinement parce que les médias de masse ne me donnent pas la visibilité que je mériterais peut-être. Donc, à ce moment-là, ben c'est ça. Donc, je vois des choses, j'ai des connaissances et qui m'inquiètent énormément. Et là, je lance l'alerte, je sonne l'alerte. Et là, ce qui arrive, c'est que les politiciens font la sourde oreille, les médias de masse font la sourde oreille. Et là, c'est ça qui m'inquiète. C'est que je sonne l'alerte. Et personne ne prend action. Tu sais, c'est comme si tu sonnes l'alerte, puis les pompiers, ils regardent ailleurs. Ça ne marche pas, là. Moi, je dis que, regardez, la maison, elle commence à brûler, là. Tu sais, j'ai besoin des pompiers, venez. Tu sais, venez voir.
Il n'y a personne qui
arrive. Personne qui veut voir.
Oui.
Personne ne veut entendre ce que j'ai à dire.
Ouais. Je trouve ça particulier, Québec, parce que je regarde un peu ce qui se passe ailleurs, tant aux États-Unis qu'en Europe. Puis moi, la France, je ne sais pas si on a bien des choses à apprendre de la France, mais ce que j'aime, c'est que quand il y a des débats, il y a des gens des deux côtés. Puis, bien que je ne connaisse pas ton métier, puis l'ARN et toutes ces affaires-là, j'aime bien être capable de voir deux individus qui discutent du même sujet puis qui sont pas du tout en accord parce que je peux me faire une tête. Puis parfois, l'un apprend de l'autre, puis ainsi de suite. C'est comme ça qu'on doit avoir un débat dans les médias. Puis au Québec, j'ai comme l'impression que un gars comme toi, c'était comme si quelqu'un arrivait aujourd'hui puis disait, ben savez-vous quoi, moi j'ai des preuves comme quoi la Terre est plate. T'as peu, là. Ça, c'est pas du tout la même affaire, tu sais. C'est passé beaucoup d'années là, pour qu'on étudie, là, savoir si la Terre était plate ou si la Terre était ronde. Tu sais, il y a quelque chose, là. Mais toi, dans ton cas, tu parlais juste de quelque chose qui était nouveau, cette fameuse COVID-là, avec le vaccin ARN. Puis Patrick Provost est arrivé en disant, t'as peu, pour ce qui est des enfants, j'ai un petit doute et les gens ont carrément boycotté tes propos alors que toi, ta job, c'est de travailler là-dedans. C'est inquiétant, ça, Patrick.
Bien, tu sais, en tant que professeur d'université, moi, je suis redevable envers la population. C'est la population qui m'a permis d'acquérir toute cette formation-là de chercheur, d'occuper le poste de professeur. Tu sais, j'ai obtenu environ 6 millions de dollars en bourse, en subvention de toutes sortes.
Mm-hmm.
Et ça, c'est sans compter le salaire que l'Université Laval me verse par-dessus ça. Donc, je me sers redevable envers la population. Et là, c'est là que, tu sais, par exemple, pour ce qui est du vaccin ARN messager, bon, il est constitué de deux composantes pour lesquelles j'ai l'expertise. Et donc, je m'estime qualifié suffisamment pour que je puisse être entendu par les autorités, par les personnes qui sont les plus concernées. Et comme chercheur, j'ai développé l'habileté d'examiner un problème sous tous ses angles. OK? Donc, quand est arrivé le vaccin ARN messager, la raison pour laquelle je me suis intéressé, c'est que j'ai moi-même eu des effets indésirables, 5 effets indésirables suite à une première injection. Et c'est là que je me suis dit, oh, attends une minute, là, c'est pas normal, là. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose dans ce vaccin-là qui provoque ces effets-là.
Donc, tu t'es penché là-dessus.
Moi, j'ai assumé que c'était le vaccin parce que c'était 5 effets que j'avais jamais expérimentés auparavant.
Mm-hmm.
Et donc, là, c'est là que je me suis intéressé à ça. Et là, j'ai pris le vaccin ARN messager et là, j'ai essayé de l'examiner sous tous ses angles, sous toutes les perspectives. Et c'est là que j'en suis arrivé à développer un esprit critique vis-à-vis de ce vaccin-là. Et j'ai réalisé que finalement, il y avait beaucoup de raisons pour justement s'en préoccuper.
Est-ce que l'avenir va te donner raison, Patrick Provost?
Bien, on va le voir. Moi, je dis que oui.
Ouais.
J'ai, en fait, ma démarche visait à avoir la meilleure compréhension globale de la question.
Ouais.
Surtout les vaccins ARN messager, mais aussi sur la question de la gestion de la crise par les gouvernements. Mais la question, c'est est-ce que ma compréhension est la meilleure? Mais moi, je demande juste ça, de pouvoir en débattre pour arriver à le savoir. Est-ce que les gouvernements, est-ce que les médias ont une meilleure compréhension que moi?
Je pense pas.
Mais on ne le saura jamais parce que je suis effacé, on me salit, on me dénigre, on me censure.
Est-ce qu'il y a déjà des chercheurs qui t'ont dit, Patrick, merci de dire tout haut ce que nous, on ne peut pas dire?
Ben oui, plein.
C'est souvent plein.
Des chercheurs, des médecins, des scientifiques. Je dis, on est des. Au Québec, on est des centaines. Au Canada, on est des milliers. Puis dans le monde, on est des dizaines et des dizaines de milliers de scientifiques,
ouais,
qui pensent comme moi. On est plutôt critique envers la gestion de la COVID-19, envers les vaccins ARN messager. Donc, on n'est pas là. Les médias aiment bien parler de consensus. Dans les articles, ils parlent de ma situation. Ils utilisent toujours comme quoi je suis contre le consensus. Il n'y en a pas de consensus, Yannick. Un consensus, tu l'obtiens quand tu amènes tout le monde autour de la table. Hein? Mm-hmm. Puis là, présentement, qu'est-ce qui arrive, c'est que les chercheurs comme moi qui sommes critiques de la gestion ou des vaccins ARN messager, bien, on est tout simplement effacés, on est exclus de la table, on n'est même pas invité à la table. Donc, c'est sûr que ce qui reste autour de la table, c'est seulement que des scientifiques qui vont être en faveur de cette gestion-là ou en faveur des vaccins.
Parce que si...
Et là, c'est ces scientifiques-là qui restent, là.
Ouais.
C'est quoi leur lien? Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts? Parce que moi, de mon côté, tous les scientifiques qui partagent ma vision, ben on n'a aucun conflit d'intérêt. Le seul intérêt qu'on a, c'est pour la population et le bien commun.
Mais si à travers le monde, Patrick, il y a des gouvernements qui ont tenté de faire taire certains scientifiques, des milliers de scientifiques, comme tu le mentionnes, tu sais, il doit y avoir des raisons. Est-ce que McKinsey était là-dedans? T'sais, moi, je suis vraiment loin des théories conspirationnistes, mais là, quand on me parle de McKinsey, qui est autant d'un bord comme de l'autre, autant du côté de Pfizer que du gouvernement québécois et canadien, je me disais, t'es peu, là, ça marche pas. Est-ce que tous ces gouvernements-là qui ont tenté de faire taire des voix qui étaient un peu discordantes, est-ce que le message se passait? T'sais, c'est gros quand on pense à ça, parce que là, c'est rendu qu'on est en train de faire taire certains scientifiques qui disent, ben là, mettons que je fais abstraction du fait qu'il y a énormément d'argent en jeu, là. Moi, je regarde ça, je regarde le ARN, puis je regarde ce que ça peut faire chez les enfants, puis j'émets certaines réserves de faire taire ces gens-là. Ça n'a pas de bon sens.
Effectivement. D'autant plus s'ils ont des expertises. Mais moi, ce sont les arguments qu'il faut tenir compte. Hein? Et bon, je disais tantôt qu'il y a des dizaines de milliers de scientifiques qui partagent ma vision. Il y en a très peu qui vont s'exprimer publiquement.
Pourquoi?
Par crainte de représailles.
C'est quoi les représailles?
Ben, les représailles, c'est les possibilités de sanctions, comme je fais l'objet, des suspensions sans salaire. Pour des médecins, ça peut être perte de licence, perte de droit de pratique. Donc, tu sais, c'est des gens qui peuvent perdre leur emploi, leur seule source de revenus, et pour lesquels, là, ils ont investi toute leur vie. Donc, évidemment, c'est beaucoup trop gros pour la plupart. C'est beaucoup trop gros de prendre la chance de perdre tout ça. Donc, perdre le statut social, perdre la source de revenus, déstabiliser toute la famille, compromettre leur vie sociale et tout et tout, même leur retraite. Je veux dire, c'est énorme. Donc, il y en a très peu qui prennent la parole publiquement comme je le fais.
Puis pourquoi
à
tu
cause
l'as fait?
Des risques de représailles.
Mais pourquoi tu l'as fait? Savais que tu risquais gros. T'as-tu une femme?
Oui, j'ai une femme et 4 enfants.
Elle doit t'avoir dit, sacrifice, si c'était à refaire, on ferait d'autres choses.
Ouais. Non, non, en fait, je referais la même chose, Yannick.
Ouais.
C'est ma conscience. C'est ça, la préconscience-là. Des fois, ça peut être difficile à vivre avec, une conscience comme ça, mais elle est trop importante pour moi. Je ne suis pas capable d'aller contre ma conscience. Je dors très bien parce que je fais tout simplement suivre mon instinct, mon intuition, ma conscience. Et c'est ça qui m'a guidé tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière de chercheur. Et je vais continuer de la suivre, la maintenir en paix. Et à cet égard-là, j'invite aussi les gens qui sont probablement contraints de faire des choses à l'encontre de leur conscience. Bien, je leur dirais de l'écouter leur conscience intérieure. Et d'arrêter d'aller à la rencontre de leur conscience. Je pense que c'est vraiment important, là. En tout cas, moi, je trouve que c'est ce qu'il faut suivre. Si j'étais pour aller à l'encontre de ma conscience, je ne sais pas comment je serais pour vivre, personnellement.
OK. Il y a des gens qui se sont levés contre les sanctions qui t'ont été octroyées là, par l'Université Laval. Je pense qu'un scientifique a le droit de se faire entendre, puis on n'a pas le droit de faire taire les scientifiques. On en est rendu où dans ce processus-là, là, pour ce qui est de la liberté?
Oui. Donc, juste avant, j'aimerais juste mentionner là, que en me faisant taire, il n'y a personne qui gagne. OK? Donc, l'Université Laval essaie de me faire taire, mais là, elle perd la face. Moi, pendant qu'on me fait taire, mais là, on m'impose des sanctions et qui compromet la poursuite de ma carrière.
Mm-hmm.
Donc, et la population, elle est privée d'informations que je possède et qui leur permettrait peut-être d'avoir un regard différent de la crise et des vaccins ARN messager. Donc, c'est une situation, là, c'est perdant, perdant, perdant. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est la possibilité de débattre, d'échanger, de discuter avec les personnes en autorité. Comme pour qu'ils puissent entendre ce que j'ai à dire. Et j'aimerais ça que ça soit public, pour que les gens puissent entendre mes arguments, qu'ils puissent juger par eux-mêmes quand on parle de tel aspect des vaccins, mais qu'ils aient cette information-là supplémentaire. Parce que ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre ou de balance qui est faite par rapport, on va encore parler des vaccins ARN messager, qui sont... publicité constante du gouvernement qui font la promotion de la vaccination et tout ça, mais sans jamais parler des risques.
Oui, mais en même temps, Patrick Provost, ils vont dire que la pandémie est derrière nous puis il faut passer à d'autres choses. C'est ça qu'ils vont dire.
Oui, mais tu vois, la façon que les scientifiques sont traités présentement, la censure, le salissage et l'exclusion, l'effacement, l'annulation, ça risque de rester. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que si les universitaires, professeurs d'université n'ont plus la liberté de s'exprimer, il n'y a plus personne qui va pouvoir s'exprimer.
En fait, tout le monde va avoir peur de s'exprimer.
Bien, tout à fait.
Parce que quand tu te fais suspendre, quand tu te fais mettre de côté par certains collègues, quand ton université te dit « ben là, moi, je vais tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues », pour un chercheur qui veut bien gagner sa vie puis qui a des enfants, ça peut les laisser...
Puis tu sais, dans la loi 32...
Ils vont rester de côté, en fait, là.
Dans la loi 32, c'est bien inscrit, puis ça l'était vrai avant, là. Les professeurs d'université doivent pouvoir bénéficier de la liberté académique en milieu universitaire afin de l'exercer sans contrainte doctrinale. Ça veut dire là, qu'on peut critiquer même les doctrines ou on peut critiquer les décisions du gouvernement, on peut critiquer même notre institution d'enseignement. Okay? Donc, on devrait être en mesure de le faire sans crainte de mesures de représailles contre nous. Et ça, cette liberté-là, elle est essentielle pour garder, en fait, pour maintenir la démocratie au sein de notre société. Les professeurs d'université qui ont la liberté de parole la plus large, si eux ne peuvent plus l'exercer, eh bien là, on va se ramasser avec des autorités, des gouvernements ou des compagnies ou quoi, des intérêts privés qui vont exercer des activités qui pourraient aller à l'encontre du bien commun ou de la santé et bien-être de la population. Et là, les universitaires qui ne sont pas capables de s'exprimer ou à qui on ne donne pas la voix ou de tribune, eh bien là, ils pourront pas questionner ou critiquer. Mm-hmm. Et là, c'est la population qui va en payer le prix.
Parce que quand tu parlais, tu n'allais pas à l'encontre de la recherche scientifique, tu allais à l'encontre de ce que le gouvernement considérait comme ce qui devait être.
Oui. Et tu sais, mes prises de position sont toujours fondées sur des connaissances scientifiques,
ouais.
Sur les données de la santé publique, du gouvernement, le ministère de la Santé et tout ça. Donc, c'est évidemment, c'est mon regard, c'est mon analyse, elle m'appartient, puis je la partage. Mais je comprends des collègues qui puissent être en désaccord avec mon analyse parce qu'ils en font une analyse différente à partir des mêmes données.
Ça, tu étais prêt à accepter ça?
Ben oui, mais il faut quand même arriver à échanger, à voir c'est quoi nos différences et à les accepter. Puis là, c'est à ce moment-là que tu peux tirer un consensus d'une situation ou d'une décision à prendre.
Parce que c'est spécial. Les conférences de presse qu'on avait, on avait le directeur de la santé publique qui était là, puis qui était avec François Legault, puis parfois même, on voyait les regards qui s'échangeaient quand il y avait une question qui était posée envers Horacio Arruda. Il parlait, puis il regardait M. Dubé, puis il regardait M. Legault à savoir s'il y avait un signe de tête dans le oui ou dans le non. C'était inquiétant de voir ça. Puis ce que je sais, c'est que le bureau d'Horacio Arruda n'était pas en même place une fois que la cellule de crise a été mise en place. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé le bureau d'Horacio Arruda, puis on l'a mis avec la gang de la Coalition Avenir Québec. Puis dans le War Room, qu'on appelle, là, pour ce qui est de la gestion de la COVID, il y avait François Legault, comptable. Il y avait Christian Dubé, comptable. Il y avait Geneviève Guilbeault, qui est une étudiante en communication à l'Université Laval. Le reste, c'était tous des politicos. Et l'autre, qui représentait le côté médical de l'affaire, c'était Horacio Arruda.
Ouais.
Il me semble qu'il manquait plus de scientifiques.
Ça, c'est le comité des 16, ça, je pense.
Oui, c'est ça. Mais bon. Il me semble que j'aurais mis
plus... Mais le comité de crise, là, ben exactement.
Plus donc, de scientifiques.
Ben tout à fait. Tu sais, il aurait fallu que le comité des 16, ou en tout cas, tu l'élargis comme tu veux, mais il fallait que chacune des disciplines ait été représentée.
Exact.
Hein? Que ce soit en éducation, en philosophie, en économie. Tu sais, tu prends toutes les disciplines qu'on retrouve à l'Université Laval, là. Bon, bien, chacune de ces disciplines-là aurait dû être représentée pour justement, non pas seulement prendre des décisions pour des raisons pour la santé publique, mais aussi pour évaluer les effets collatéraux de ces mesures-là qui étaient pour être appliquées sur toute une population pour une menace qui était très ciblée sur les personnes âgées et malades.
Tu étais pris de notes.
Le lien, tu sais, tu mentionnais les conférences de presse.
Oui.
Donc, le directeur de la santé publique, il est sous-ministre adjoint de la santé.
Exact.
Donc, il n'est pas indépendant. Et ça, c'est un véritable problème. Et le 11 juin 2022, j'ai publié un article qui proposait la formation d'un conseil des universitaires indépendants où est-ce que ça rassemblerait des universitaires qui sont indépendants et qui seraient comme conseillers au gouvernement, aux différents ministères, puis aussi au premier ministre. Et le but de ce conseil-là, ce serait justement de fournir des avis indépendants, libres de tout conflit d'intérêts et libres de toute influence politique. Et, tu sais, je peux m'imaginer, Horacio Arruda, la pression politique qu'il a dû avoir pour appuyer certaines décisions. Et Thomas Gerbin, on l'a vu là, avec la question du couvre-feu, où est-ce qu'il n'y avait aucune justification scientifique pour la mesure du couvre-feu. C'est une décision qui était politique et pour laquelle il cherchait des appuis scientifiques. Alors, c'est complètement l'inverse que moi, ce que je prône. C'est-à-dire, face à un problème, tu consultes la science et donc après, tu formules une proposition politique, une décision politique qui est fondée sur la science. Et c'est dans ce sens-là que ça devrait être fait et pas à l'inverse. Parce que là, le risque, c'est que les politiciens au pouvoir vont pouvoir implanter leur idéologie en l'appuyant sur des études scientifiques qui vont avoir trié sur le volet. Et
c'est si carrément ce qu'ils ont fait.
Si tu regardes dans la littérature scientifique, tu peux trouver de tout. Mm-hmm. Je ne m'attends pas que la Terre est plate, là.
Des platistes!
Mais de tout, tu sais. Fait que c'est très facile de faire du cherry-picking, comme on dit,
ouais.
Et d'aller chercher les études qui te plaisent. Donc, c'est ça qui est le danger, puis c'est ça qui est l'importance de vraiment d'avoir des experts indépendants qui puissent formuler des recommandations publiques à la population, dire, regardez, nous, c'est ce qu'on ferait. Maintenant, on l'a dit au gouvernement, attendons voir c'est avec quoi la décision.
Voilà, ben tu sais quoi, tu me rejoins dans tes pensées parce que moi, ça aurait dû être deux conférences de presse. Ce fameux conseil-là des sages, qu'on pourrait dire entre guillemets, malgré qu'il te manquerait peut-être des cheveux blancs, là. Et long.
Il manque des cheveux.
Mais pour le conseil des sages. Puis après ça, le politique par la suite. Mais mélanger tout ça, de voir que le gouvernement essaie de s'en sortir pour certains mauvais coups qu'ils ont fait, je trouve ça très particulier. Est-ce que tu t'attendais, Patrick Provost, tu sais, toi, comme j'ai dit au début, tu étudies en microbiologie, infectiologie puis immunologie, tu es au département de microbiologie, infectiologie, immunologie. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'un jour, tu sais, le biochimiste en toi, là, fasse la manchette régulièrement? Puis que d'avoir ton université sur ton dos, puis d'avoir certains individus en politique être sur ton dos, est-ce que tu t'attendais à ça? C'est quand est-ce que tu as commencé à sentir la soupe chaude?
Bien, j'avais jamais pensé à ça, premièrement. Avant, il y a quelques années. En 2021, on a appris là, que l'existence d'un contrat confidentiel, d'une entente confidentielle entre le Port de Québec et l'Université Laval. Et cette entente-là, en fait, c'était une confidentialité absolue. C'est une entente confidentielle dont l'existence même devait être confidentielle. Et pour moi, ça a sonné l'alarme. Des drapeaux rouges se sont levés. Et je me suis dit, là, ça n'a pas de bon sens. On voit l'influence du secteur privé sur l'Université Laval, sur sa mission universitaire. Et ça, c'est de manière cachée, sans que personne le sache. Et je trouvais que c'était très, très problématique, étant donné que l'université, bien que ce soit une entité privée, bien, est une université publique financée à partir des fonds publics. Et donc, à l'été 2021, ça m'a inspiré un premier texte là, dans le titre, là, j'ai sorti le terme « Absolute Gate ». Et là, ensuite, j'ai publié trois autres articles, trois autres lettres d'opinion, donc un total de quatre lettres d'opinion, très critiques envers mon institution, l'Université Laval, avec laquelle je n'étais pas d'accord avec l'orientation, avec les influences du secteur privé qui étaient beaucoup trop grandes, à mon avis, qui faisait dévier l'institution de sa mission.
OK. Mais juste revenir pour ce qui est de l'entente entre le Port de Québec et l'Université Laval, qui devait être secrète. Ça, c'est ce qui t'a fait un peu sortir de tes gonds.
Ouais.
Là, de ce que je comprends, c'est que le Port de Québec, c'est une juridiction fédérale, mais c'est une entité propre, là. C'est eux qui se gèrent par eux-mêmes. C'est pas le gouvernement qui va gérer le Port de Québec. Puis là, ben, ils faisaient affaire avec quelque chose de privé, mais qui est géré avec l'aide de fonds publics.
Ouais.
Là, toi, tu disais, il y a une problématique là. Il ne doit pas y avoir d'entente confidentielle. Est-ce qu'on sait c'était quoi? C'était-tu pour l'étude de la poussière rouge là, dont on a une petite problématique à Québec?
Je ne me souviens plus exactement. Je pense que c'est un genre de partenariat où est-ce qu'il y avait vraiment des échanges très, très étroits. Là,
ouais.
Et c'est ça qui est problématique. En fait, la proximité du Port de Québec avec l'Université Laval était problématique. Elle l'est peut-être encore aujourd'hui, mais on ne sait pas. Mais je sais qu'il y a des membres de conseil d'administration qui étaient partagés entre les deux, donc les deux organisations. Donc, c'est vraiment une proximité que pour moi, elle était problématique.
Mm-hmm.
Et dans mes quatre lettres, j'ai soulevé des dizaines et des dizaines de questions. Et j'attends toujours les réponses.
Okay.
Parce que, tu sais, l'Université Laval, la rectrice actuelle, elle utilise le slogan « Je transforme mon université », mais elle veut la transformer en quoi? Est-ce qu'elle veut la transformer en entreprise privée? Parce qu'elle est vraiment drôle bien partie. Et bien partie parce que de plus en plus, on voit une direction, une gestion de l'université qui est top-down, qui est vraiment pyramidale. Donc, les ordres viennent d'en haut et les professeurs doivent exécuter. Alors qu'une université, pour moi, puis pour les professeurs, c'est une institution collégiale où est-ce que les relations sont collégiales. Tu sais, et puis et qu'il y ait une circulation aussi. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un clivage entre les professeurs de carrière et les professeurs qui deviennent administrateurs ou qui veulent le devenir. Et ça crée deux classes de professeurs et l'une veut gouverner l'autre. Tu vois? Donc, c'est ça qui est problématique et ça nuit à la collégialité. Parce que le lien entre les deux, parfois, il n'est pas facile.
Donc, c'était la suite de ces lettres-là qui impliquaient le port de Québec versus l'Université Laval que là, tu as commencé à voir que tu commençais à te faire des ennemis dans Baptiste.
Bien, c'est sûr que mes lettres n'ont pas été appréciées par la direction. Ensuite de ça, au mois d'août qui a suivi en 2021, j'ai participé à la commission de Cloutier. Qui était en fait précurseur là, à la loi 32 sur pour protéger la liberté académique en milieu universitaire. Mm-hmm. Et donc, j'ai partagé justement mes analyses à la commission. Je l'ai présenté, j'ai témoigné en commission, j'ai été invité à témoigner et tout ça. Et donc, j'ai pu partager en fait mes préoccupations sur l'influence du privé sur nos universités publiques. Évidemment, ça l'a pas aidé, là.
Aux relations de travail.
Aux relations de travail, c'est certain.
Mais tu le croyais.
Mais ça, c'est un contexte.
Tout ce que tu as mentionné là.
Mais tout ça, c'est toute une analyse, tu sais, bon, que j'ai faite, des questions que j'ai posées, mais moi, je voulais des réponses, mm-hmm. mais on ne me les fournit pas. Donc, moi, ce que je vois, c'est que finalement, je dérange. T'sais, ils veulent continuer dans la même direction que moi, j'estime être la mauvaise direction, mais ils veulent continuer là-dedans. Donc, ils essaient de m'ignorer, ils essaient de me faire taire, essaient de me renvoyer. Finalement, je pense que le but de tout ça, c'est finalement de se débarrasser de moi, au final.
Mais ils ne peuvent pas renvoyer un prof syndiqué?
Ben oui.
Pourquoi?
Ben
pour quelle raison?
Parce que tu vois, ils sont bien partis. Là.
T'as rien fait de criminel? T'as pas agressé personne?
Non, mais ça, je
t'as juste
répète,
donné ton opinion?
Je le répète. Puis même, ils me disent que ils m'accusent de manquement à la conduite responsable en recherche. Mais bon, si tu vas sur le site web de l'Université Laval, conduite responsable en recherche, il n'y a rien là-dedans que j'ai enfreint. Là. Tu sais, j'ai pas fait de fraude, pas détourné d'argent, etc. Mm-hmm. J'ai pas créé de fausses publications. J'ai pas inventé de résultats. J'ai pas agressé personne. Je veux dire, je suis le plus pacifique là, qu'on peut pas avoir. Donc, mais quand même, ils ont trouvé une faille dans la convention collective où est-ce qu'ils ont détourné, à deux reprises, ils ont détourné un processus disciplinaire pour m'imposer des sanctions sur des opinions que j'ai exprimées puis avec lesquelles certaines personnes n'étaient pas d'accord. Donc, et ils l'ont appliqué à deux reprises. Donc, ça a donné une première suspension de 8 semaines sans salaire au mois de juin.
Semaines sans salaire?
Oui, au mois de juin. Ensuite, tu m'as invité le 14 juillet 2022. On s'est parlé en ondes,
oui.
Alors que tu étais à l'autre station de radio. Et là, cette apparition-là, cette entrevue-là, a donné naissance à une autre plainte. Et c'est celle-là qui a mené à une suspension de 4 mois sans salaire. Donc, présentement, je ne suis pas suspendu parce que je suis en grève.
Ouais.
Mais ça part du 23 janvier au... Là, ça s'est rendu au mois de juin là, parce que les jours de grève ne comptent pas dans la suspension. Okay.
Mais pour quelles raisons ils t'ont suspendu suite à l'entrevue qu'on avait eue ensemble?
Ah, ben là, c'est pas mal. On pourrait peut-être rentrer dans le détail. J'ai mm-hmm. des pages de réponses. Mais essentiellement, ils me reprochaient d'avoir partagé avec le public les résultats d'une étude en pré-publication
okay.
qui n'avait pas été encore révisée par les pairs.
Okay.
Et, mais, tu sais, dans l'entrevue, j'avais bien expliqué le contexte de l'étude et avec les résultats, puis avec, bon, dire, regardez, ça reste quand même à être validé par les pairs et tout ça. Et pourquoi je l'ai présenté? Bien, parce que ça montrait que le vaccin avait une efficacité négative. Et les données de la santé publique, à partir de janvier 2022, ces données-là, quand le vaccin, l'efficacité du vaccin est devenue négative, la donnée a sauté. C'est-à-dire que la santé publique ne partageait plus cette donnée-là. Donc,
c'est un hasard. Ils l'ont oublié.
Ben, regarde, moi, je déplace ce manque de transparence.
Ben oui.
Et c'est pour ça que quand j'ai vu l'étude, je me suis dit, hey, c'est exactement ça qu'on voyait dans nos données de la santé publique avant ouais. qu'ils les fassent. Et là, j'ai voulu dire que, regardez, là, plus les personnes sont vaccinées, plus sont hospitalisées, plus sont décédées. Et donc, c'est ça qui, en fait, a mené, en fait, il y a une personne que, bon, on peut y mettre des doutes, là, une personne, c'est un homme qui a fait deux fautes d'orthographe dans son nom de famille, qui a écrit à l'Université Laval, puis que, bon, il n'était pas content que j'aie dit ça. Il n'était pas d'accord parce qu'évidemment, ce que je disais, ça allait à l'encontre de ce que le gouvernement disait. Il faisait la promotion du vaccin, puis moi, j'allais dire, plus tu te fais vacciner, plus tu as de risques.
Puis la personne a écrit ça par courriel, donc on ne peut pas vérifier la véracité, à savoir si c'est bel et bien cette personne-là.
Bien, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc, on peut se demander si cette personne-là existe réellement. Ou ouais. Ça a-t-il été une identité qui a été créée? Bon.
Mais l'Université Laval n'a pas tenté de vérifier.
Ils ne posent pas de questions. Ben, apparemment qu'ils auraient vérifié, mais on n'a jamais vu la signature. Et okay. On n'a jamais vu la personne. Bref, mais tout ça, c'est un arbitrage. Là, donc, okay. on verra.
Puis là, ils t'ont suspendu encore une journée.
Ben oui, ça, c'est la troisième suspension pour un courriel.
Un vrai bum.
Pour un courriel. Pour un courriel. Tu sais, c'est fou, là.
C'était quoi le courriel?
Donc, c'est ça. Donc, c'est le 18 novembre 2022. Je voyais là que la deuxième plainte là, qui allait me faire suspendre pour 4 mois, je voyais là qu'ils allaient faire la même chose que pour la première. Puis là, je me dis, voyons, donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de faire traiter ça. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié les adresses courriels des professeurs qui sont en position d'autorité, de décision ou d'influence à l'Université Laval, 91 profs.
Okay.
Je les ai ciblés et je leur ai envoyé un message en les invitant, puis c'est intitulé « L'Université du futur », point d'interrogation. Je les invitais, bon, je les ai informés de ma situation, je leur ai posé un paquet de questions que le traitement dont je fais l'objet, ça soulève. Et ensuite, je leur ai demandé, est-ce que c'est vraiment l'Université du futur que vous voulez? Et si oui, ben bon, continuez, mais sinon, ben, prenez action. Donc, évidemment, c'est un très long courriel, bien argumenté, très respectueux. Et là, il y a un des destinataires que j'imagine que ça ne tentait pas de réfléchir. Donc, il me dit qu'il n'était pas d'accord avec mon courriel, puis que bon, bref. Fait que lui, il a porté plainte.
Oui.
Et là, l'Université Laval a dit, « Ben là, on vous avait déjà dit, Dr Provost, de ne pas écrire à vos collègues avec des courriels de masse non sollicités. » Donc, ils me reprochaient que le courriel était de masse alors qu'il était ciblé.
Ouais.
Ils m'ont reproché que le courriel était non sollicité alors que…
Ils en reçoivent toujours.
On en reçoit des dizaines et des dizaines à tous les jours, les courriels non sollicités.
Ouais.
Ils m'ont reproché parce que il aurait fallu que je demande leur autorisation.
OK, au 90, là.
Non, il aurait fallu que je le demande à l'Université Laval avant même d'envoyer mon courriel.
Mm.
Il aurait fallu que je demande leur autorisation avant d'écrire mon courriel.
Ce que tu n'aurais pas obtenu.
Ben, c'est ce que j'ai dit. mais tu vois comment c'est rendu.
Oui, c'est rendu complexe. Mais là, ça représente des milliers de dollars. Là. Vous êtes tous millionnaires, les profs à l'Université Laval.
Oui.
Tu vas-tu accepter
ça? Ça fait quand même 6 mois de salaire de perdu sur une année.
Ben, 6 mois
donc,
de salaire.
Donc, c'est 50% de perte de revenus.
Oui.
Ça correspond à, pour chacun, là, juste imaginez si vous avez la moitié de votre salaire annuel. Bon, c'est l'impact que je subis.
Tu vas-tu les poursuivre?
Mais c'est une forte possibilité, oui.
Oui. Ben, je le souhaite, du moins.
Oui. Ouais. Ouais.
Parce qu'il ne faut pas qu'ils te fassent taire de cette façon-là. Là.
Ben, moi, c'est pour la population. Ouais. Moi, je ne prête pas allégeance à l'Université. Ma loyauté est envers la population et non pas l'Université Laval. Et c'est pour ça que j'ai des choses à dire. J'ai des connaissances, j'ai des choses à dire. Puis je vais continuer de le dire tant qu'on ne m'écoutera pas. Et c'est pour ça que j'appelle au débat. J'appelle à des rencontres avec Premier ministre Legault, mm-hmm. ministre Dubé, Luc Boileau, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, dont je critique très fortement le travail, entre autres parce qu'il avalise le concept de désinformation. Et désinformation, là, c'est une étiquette politique
mm-hmm.
qui permet à la personne qui la pose de prendre une position d'autorité sur celui qui va apposer l'étiquette. Donc, aussitôt que tu as l'étiquette de désinformation, évidemment, ça empêche les débats.
Ouais.
Et en science, là, si tu veux arriver à des consensus, il faut que tu sois en mesure d'écouter tout le monde, d'avoir tout le monde autour de la table, qu'on puisse débattre. Et là, l'étiquette de désinformation ou désinformateur, whatever, ben, si tu la colles sur quelqu'un, tu l'élimines du débat, tu l'annules, et là, tu te prives d'un possible consensus.
Ouais.
Et là, ce que ça fait, c'est que ça va mener à la pensée unique et là, à une vue unilatérale d'une question scientifique ou d'une recommandation, d'une décision politique qui peut ne pas être la bonne.
Oui, puis ça va carrément à l'encontre de la science. OK. Écoute, j'espère que tu vas retrouver ces 6 mois de salaire perdus-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, tu as des principes. Puis moi, j'adore entendre un individu qui me dit « Yann, je fais pas ça par publicité. Je veux pas nécessairement faire partie des médias. Ce que je veux, c'est que je me sens redevable à la population. » Puis j'avais besoin de dire c'était quoi mes recherches puis qu'est-ce que j'avais trouvé. La politique, je sais que tu avais essayé pendant un certain temps. Hein. C'était Québec solidaire. Hein.
Ouais,
je ne peux pas croire que je parle à un gars de Québec solidaire.
Moi, je peux pas croire que j'ai été avec ce parti-là. En fait, c'est parce que tu sais, Québec solidaire m'a tellement déçu. Là.
Ouais.
En fait, je l'ai quitté au moment où est-ce que l'extrême-gauche, je l'appelais l'extrême-gauche, qui est le mouvement woke là, à l'intérieur de QS,
ouais.
Pris vraiment beaucoup de place et ont usé de violence là, pour mm-hmm. imposer leur idéologie. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai quitté. Et pendant la pandémie, quand je voyais Québec solidaire vouloir que les mesures soient encore plus sévères, pires que celles qui sont imposées par la CAQ, que je trouvais qu'ils étaient beaucoup trop sévères, là, je me suis dit, là, ça ne marche pas, ils ne jouent pas le rôle d'opposition, ils ne défendent pas les minorités, ils ne défendent pas les travailleurs. Je veux dire, QS a toujours défendu les travailleurs. Et là, les travailleurs se faisaient congédier parce qu'ils refusaient l'obligation vaccinale. Puis là, il y avait aussi QS qui voulait faire du porte-à-porte pour inciter les gens à se faire vacciner. Mais j'ai dit, bordel, ils savent-tu comment il fonctionne, là, ce vaccin-là? Ils savent-tu que ce n'est pas un vaccin traditionnel, que c'est expérimental, que tu ne peux pas juste passer aux portes puis ah, ben, vous savez, prenez le vaccin, c'est efficace. Non, c'est parce qu'il faut que tu donnes un consentement, il faut que tu obtiennes un consentement libre et éclairé. Mais pour ça, il faut que tu présentes autant les bénéfices prétendus que les risques.
Exact.
Donc, bref, il y a tellement de choses qui ont déraillé au sein du parti. Je suis vraiment...
Mais là, la politique, ça t'intéresse plus?
Bien, moi, j'aime avoir une voix indépendante.
Oui.
Hein, parce que c'est comme ça que je suis capable de rejoindre le maximum de personnes et que les personnes vont considérer mon message sans aucune couleur. Mais c'est sûr que je vais toujours chercher à avoir le maximum d'impact sur ma communauté. Je suis fait comme ça, comme individu. J'aime contribuer. Je veux redonner autant qu'elle m'a donné. C'est comme ça.
Bon, la politique. Peut-être qu'on aura la chance un jour de te rattraper quelque part avec un parti qui existe ou qui n'existe pas. Des gens remplis de convictions, j'ai besoin de ça en politique. Des gens qui sont pas prêts à trahir son prochain pour peut-être obtenir d'autres choses. J'ai de la misère avec ça.
Mais tu sais, je ferme pas la porte à une possible carrière en politique.
Ouais.
Le problème, c'est que moi, je suis pas capable d'être... Je ne me vois pas être comme un politicien comme on les voit de manière traditionnelle. Tu sais, des contenants qui portent un message. Donc, tu mets ce que tu veux dans le contenant, puis ça va livrer le message. Tu sais, ouais. C'est comme porte-parole. Moi, je suis vraiment pas comme ça.
Okay.
Donc, je suis une personne authentique, ouais. Avec ma conscience, avec... Et si les gens veulent m'élire, ben, ils vont vouloir qu'ils vont obtenir ce pour quoi ils ont voté.
C'est ça.
Et,
avec ses qualités et ses défauts.
Oui, puis je suis pas capable, mais tu sais, je suis pas capable de dire quelque chose auquel je crois pas.
Ouais.
Puis les politiciens, il y en a beaucoup qui font ça. Hein.
Oui.
Ben, moi, je serais pas capable. Moi, je suis là comme pour le monde, pour la population. Et puis, c'est sûr que si j'y vais, je vais me défendre bec et ongle pour la population.
Là, on va essayer de trouver un moyen de se pogner comme il faut. Là. Ding, ding, ding. La grève à l'Université Laval pour ce qui est des enseignants, c'est quoi les raisons pour lesquelles vous faites la grève? Parce que, tu sais, je suis pas mal au courant des salaires des profs à l'Université Laval. Puis je me dis, j'ai un de mes collaborateurs qui est prof à l'Université Laval, que tu dois bien connaître aussi, qui me dit, Yann, je sais même pas comment je gagne. Moi, d'après moi, un gars qui sait pas comment il gagne, c'est qu'il mène une belle vie. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes en grève présent? Puis que, tu sais, malheureusement, vous devez prendre les élèves un peu en otage, là, ces élèves qui n'ont pas nécessairement le droit à des cours. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous en êtes rendu là?
Bien, tu sais, l'aspect salarial, c'en est juste un, mais pour moi, c'est pas lui le plus important.
Ouais.
Tu sais, parmi les 15 plus grandes universités au Canada,
ouais.
On est au 6e rang en termes de qualité d'enseignement, qualité d'institution. Et en termes de salaire, on est en bas du 15e, on n'est même pas sur le graphique. T'sais, fait vraiment, il y a une injustice côté salarial. Okay.
Mais c'est le rang, tu sais, parce que, mettons, ouais, le dernier rang. Le prof est à 157 000, là, ben, après plusieurs années.
Oui, bien, si tu regardes la rémunération en moyenne.
157 000, c'est un très bon salaire.
Oui, non. C'est pour ça que, mais tu sais, on travaille fort.
Entièrement d'accord.
Et puis, tu sais, même moi, pendant la dernière année, je vais te dire,
ouais.
Je pense que même si j'ai eu juste la moitié de mon salaire, là, je vais avoir travaillé en temps. Là, pour...
Ben oui, c'est mais, sûr. Mais tu sais, mais... 157 000 à Québec versus un 157 000 à Toronto, tu es au courant que c'est pas la même affaire.
Oui, oui, non, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
T'sais, si tu as 157 000 en Saskatchewan, tu es pas mal plus riche que le prof qui a 157 000 à Québec.
C'est pour ça que je vous dis, c'est pas... T'sais, il y a un rattrapage à faire,
ouais,
par rapport à notre situation puis par rapport aux autres universités canadiennes,
mm-hmm,
parce qu'il y a d'autres universités aussi qui sont dans des environnements comme le nôtre. Donc, il y a un rattrapage, mais ce n'est pas la question principale. Il y a la charge de travail. La charge de travail là, qui a augmenté vraiment beaucoup au cours des dernières années. Puis c'est pour ça que les collègues sont aussi mobilisés. Hein. La mobilisation est historique.
Oui. Mais c'est quoi la charge de travail? Qu'est-ce qui fait que ça a augmenté, Patrick?
Ben, le nombre d'étudiants a augmenté. T'sais, au cours des 15 dernières années, là, si je me souviens bien des chiffres, au cours des 15 dernières années, tu as eu une augmentation de 21% de la population étudiante,
ouais,
mais une baisse de 11% des profs.
Okay. Mais est-ce donc, que vous avez pas plus de chargés de cours?
Beaucoup plus, il y a beaucoup plus de... Ça implique des groupes plus larges,
ouais,
plus de travail, avec des cours pendant la pandémie, là. On avait des cours avec du monde dans la salle et du monde à distance en même temps.
Ah, ça devait
être le prof fallait qu'il gère tout,
ouais,
avec un aide très minimale technique, souvent pas d'aide. Donc, tu sais, c'est ça. Là, donc.
Mais vous n'avez pas plus de chargés de cours?
Bien, il y en a des chargés de cours, mais ils font leur travail.
Okay.
Donc, les profs, ils ont aussi l'enseignement et la recherche aussi.
Mais les chargés de cours ne peuvent pas vous assister?
Bien, ils prennent en charge les cours pour lesquels ils ont un contrat d'enseignement.
OK. Mais ils ne peuvent pas vous assister pour vous délester un peu du travail que vous avez à faire?
Je pense pas.
OK.
Il y a aussi la collégialité, la sécurité d'emploi, évidemment, pour les jeunes professeurs qui arrivent.
Mm-hmm.
Donc, souvent, les 6, 8, 10 premières années, il n'y a aucune sécurité d'emploi, alors que... Comme professeur, on devrait avoir la sécurité d'emploi pour être capable de prendre la parole publiquement sans risque de se faire, okay, tout simplement
jeter la porte. Sécurité d'emploi, ça, c'est le syndiqué. C'est ça?
Oui, oui. Bien, en fait, on est tous réunis là, sous le syndicat du SPUL, le syndicat des professeurs de l'Université, oui, de Laval.
Je comprends, mais quand tu me dis pendant 6 ans, ils n'ont pas le droit à la sécurité d'emploi, c'est quoi ça exactement?
Bien, en fait, c'est parce que c'est un contrat temporaire. Donc, il faut qu'ils aillent chercher leur bourse salariale et tout ça.
OK.
Et là, s'ils n'ont pas les bourses, bien, ils doivent quitter.
Ça, c'est renouvelable à chaque année, puis à la 6e année...
Bien, c'est des contrats de différentes durées, là.
OK.
Mais ça dépend de la discipline, là. Bref. Mais l'enjeu plus important, c'est la collégialité, la transparence,
mm-hmm,
le processus de traitement des plaintes, la liberté universitaire aussi. Donc, ça, c'est des enjeux qui n'a pas rapport avec l'argent, là, OK? Et c'est là que c'est vraiment le choc de deux idéologies, deux philosophies différentes qui s'affrontent. C'est l'Université Laval, la direction qui veut imposer son mode de gestion plus
pyramidal,
des entreprises, ouais, pyramidal, et celle vue par les profs qui vise une meilleure collégialité et le respect de la liberté universitaire. Pour ce qui est de l'argent, des finances,
oui,
les professeurs en économie, fiscalité du syndicat, actuaire et tout, ils ont examiné les livres de l'Université Laval. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'Université Laval avait fait un excédent de 257 millions de dollars au cours des 4 dernières années.
Qui a envoyé ça dans les immobilisations.
Oui, donc ça, c'est environ plus que 50 millions par année qui passe du fonds de fonctionnement au fonds d'immobilisation.
Ouais.
Et ça, c'est 50 millions de dollars là, en services et en qualité d'enseignement, en qualité de recherche, que l'Université Laval décide de priver ses professeurs et ses étudiants. Donc, il y a énormément de questions là. Et là, quand on se fait dire par l'Université Laval, vous ne comprenez pas trop comment ça fonctionne, puis c'est une question d'interprétation. Mais moi, 50 millions en service de moins, là, ça, je le comprends très bien. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais est-ce qu'il y a une obligation de laisser ces 50 millions là-dedans pour ce qui est du service aux élèves?
Mais c'est à eux de l'expliquer. Pourquoi ils nous privent de 50 millions par année? Pourquoi ils mettent ça dans les immobilisations?
Oui, en même temps, c'est une entreprise.
C'est quoi leur visée?
Comme une entreprise privée. Ils n'ont pas nécessairement à vous expliquer ça.
Oui, c'est ça. Donc, c'est l'argent public,
ouais,
qui atterrit à l'Université Laval et que là, ça se retrouve dans des mains privées,
mm-hmm,
et que là, le 50 millions, au lieu d'aller en service aux étudiants, ça s'en va dans l'immobilisation, puis là, on peut plus le ressortir de là. Est-ce que ça va servir pour des bâtiments et tout ça? Je ne sais pas. Mais pourquoi l'Université Laval ne le mentionne pas? En tout cas, avec cette somme-là, là, 50 millions par année, on pourrait engager 500 profs de plus. Et pour rattraper le retard, là, parce qu'au fil des années, on a perdu des professeurs, alors que toutes les autres universités ont vu le nombre de professeurs augmenter, l'Université Laval a été la seule au Québec à avoir le nombre de professeurs diminuer. Et pour rattraper le retard, là, il faudrait engager 400 professeurs. Donc, l'Université Laval a l'argent pour satisfaire nos demandes. Mais en fait, on ne demande même pas 400 professeurs, on en demande 100. Mais ça, c'est non négociable. Parce que, tu sais, on en a besoin de 400 pour rattraper le retard.
Ah ouais.
On en demande 100. Donc là, tu sais, c'est déjà un compromis. On a déjà mis beaucoup d'eau dans notre
vin. Mais vous auriez dû faire appel à quelqu'un comme moi, là. Moi, j'aurais dit, demandez-en 700. Fait que là, ça va leur faire peur.
C'est sûr que stratégiquement, on aurait peut-être dû demander 400. Ça aurait été une demande tout à fait légitime.
Hein. Ben oui. Ouais. Appelez-moi dans ce temps-là. Je vais vous en donner des conseils, moi, pour les mettre dans l'embarras. Patrick Provost, qu'est-ce qui restait à jaser avec toi? Ah oui, voilà, je m'étais mis une petite note. Pour ce qui est de la grève, là, c'est une grève illimitée, c'est ça?
Grève générale illimitée.
Oui. Donc, en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre.
On a fait un 2 semaines de grève, là, fin février, début mars. Ensuite de ça, là, on a commencé la grève cette semaine. On a poursuivi, en fait, avec une grève générale illimitée. Donc, ça fait 2 semaines et quelques jours en grève.
On n'aurait pas pu prendre une autre stratégie que cette grève illimitée-là où les élèves se retrouvent un peu en difficulté. Puis avec leur cursus scolaire, des fois, ça peut être plus difficile.
Depuis le mois de mai, on est prêt à négocier. Le syndicat est prêt à négocier depuis le mois de mai 2022. On a avisé l'employeur. L'employeur nous est revenu en septembre.
Mm-hmm.
Et depuis ce temps-là, il se traîne les pieds. Donc, tu sais, ils nous ont fait une offre salariale, là, la veille, le dimanche avant la grève générale limitée.
Ouais.
On avait déjà fait une grève de 2 semaines. Hein? Et ils nous arrivent avec des offres la veille, complètement, même pas dans le graphique, comme je pourrais prendre l'expression. Donc, ils se traînent les pattes. Et moi, ce qu'on a appris, c'est qu'à la table de négo, là, on a du côté des syndicats, les profs, ils sont prêts, sont préparés. Et de l'autre côté, ils ne sont pas prêts. Et ils ont nommé comme chef négociateur un avocat de pratique privée qui connaît absolument rien à l'université. Donc, tu sais, déjà, là, en tout cas, moi, je vois qu'il y a un peu de mauvaise foi là, quand que tu mets en place ton chef négociateur qui n'a pas aucune idée c'est quoi l'université. Fait, il a fallu que les profs lui expliquent un peu comment fonctionne l'université, c'est quoi les priorités.
Mais prof Provost, là, ne faites pas votre politicien, le prof Provost. Il n'y aurait pas eu une autre façon de se faire entendre par l'Université Laval puis de faire mal à l'Université Laval plutôt que de faire mal aux étudiants?
Comment?
Ben, je sais pas. Est-ce qu'on peut jouer avec la remise des notes? Est-ce qu'on peut faire d'autres stratégies qui feraient en sorte que l'Université Laval serait plus capable de vous endurer? Je sais pas.
C'est sûrement des aspects qui ont été examinés par le syndicat et puis par le comité de négo. Et puis,
ça va me surprendre beaucoup.
L'Université Laval se traînait tellement les pieds que c'est pas de gaieté de cœur qu'on a pris de grève, tu sais. Puis ça a été supérieur à 95% en faveur de la grève, là. Et la dernière réunion, là, on était au-dessus de 850 sur 1280. Tout a réuni au même endroit, ça s'est jamais vu. Tu sais, c'est historique comme mobilisation, là. Les profs en ont ras-le-bol de la manière que l'Université Laval les considère. Et il faut rappeler là, que l'université, là, sans les profs, c'est pas une université, là. Les profs, c'est le cœur même de l'université. C'est ça qui fait battre l'université.
On aime beaucoup les chargés de cours, mais on aime les profs aussi. All right, Patrick Provost, pour les gens qui veulent continuer de te suivre sur les réseaux sociaux ou commencer à te suivre sur les réseaux sociaux, Patrick Provost, tout simplement.
Oui, puis aussi juste sur Google, vous pouvez trouver mon adresse courriel, vous pouvez m'envoyer des petits messages, vous pouvez envoyer des messages à l'université. Hein, si vous avez des commentaires à formuler par rapport au traitement dont je fais l'objet, vous êtes invité à contacter la rectrice. Son courriel est public.
Voilà. Patrick Provost est professeur titulaire au département de microbiologie, infectiologie et immunologie à l'Université Laval. C'est un biochimiste de formation. Ça a été un plaisir de jaser avec toi puis au plaisir de te rejaser dans quelques semaines.
Plaisir partagé.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Bye.
Marceau, le soir.
chez Cora, pendant le Festival des cassolettes, ça va être dur de choisir entre nos 5 nouvelles cassolettes. Parce qu'il y a, entre autres, la cassolette grande bouffe et son surprenant goût de burger, la cassolette style hot chicken, un classique réconfortant, et la délectable cassolette halloumi et chorizo. Avec ces nouvelles cassolettes de Cora, ça va être dur de choisir, mais que cela ne tienne.
Offre valable jusqu'au 30 avril dans les salles à manger pour emporter et à la livraison. Chez Cora, moi je déjeune avec le Festival des cassolettes.
Vous souhaitez louer dans le secteur de Beauport? Vous devez visiter les condos locatifs La Station. Vous profiterez d'aires communes comme un lounge, un gym et une salle de billard. Vous êtes un amoureux de Beauport? Alors optez pour un bail à long terme à conditions avantageuses. Détails immeubleroussin.com.
Montre à tout le monde que ta bougie fait des étincelles. Et deviens aviseur mécanique ou conseiller en pneus dans l'une des succursales de Desharnais Pneus et Mécanique. On va te faire une offre juste parfaite, parce que travailler chez Desharnais, c'est juste parfait.
Montre à tout le monde que tu fais le poids et deviens technicien de service routier poids lourd chez Desharnais Centre du Camion. On va te faire une offre juste parfaite, parce que travailler chez Desharnais, c'est juste parfait.
Depuis que je suis petit, je sais que je suis différent.
Comme les autres.
J'ai toujours été attiré par les hommes.
Par les femmes.
Au fond de moi, je sais que je suis homo.
Hétéro.
Personne n'a le droit de dicter l'orientation sexuelle de quelqu'un. Faire pression par le biais des thérapies de conversion peut avoir de graves conséquences. C'est inutile, dangereux et illégal. Obtenez de l'information et des ressources au québec.ca/thérapie-conversion. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, c'est Steph. Faut que je vous le dise, je suis en amour. Je suis totalement tombé sous le charme de mon Jeep Wrangler. Il est beau, il est fort, il me fait penser à moi. On en a plusieurs en inventaire pour livraison immédiate. Par exemple, le Wrangler Sport 2 portes en location 24 mois est à 83 $ par semaine avec un comptant de 1995 $. Si tu veux les meilleurs, perds pas ton temps ailleurs. Va-t'en direct que chez Lévis Chrysler.
Venez voir le plus grand projet de condo locatif à Québec. Opal, par quartier Mosaïque, offrant piscine intérieure, gym et salle de yoga, golf virtuel, grand balcon, service à proximité, une fenestration abondante donnant sur le boisé. Opal condo locatif par quartier Mosaïque, votre nouveau beat de vie.
Hey, il y a encore des innovations à la formation continue du Cégep Garneau. Oui, oui, ils ont créé une nouvelle formule de formation courte dans le domaine des technologies de l'information sous forme de dîner-conférence. Imagine-toi tranquillement mangeant ton lunch, comprendre ce qu'est la blockchain, la crypto-monnaie, les jetons non-fongibles NFT et même le métavers. Inscris-toi dès maintenant, ça se passe entre le 13 avril et le 1er juin. Et rappelle-toi, si tu veux trouver la formation qui te correspond, rends-toi sur progresseravecunz.com.
Que diriez-vous de faire vivre des expériences uniques et mémorables aux auditeurs de Boulevard 102.1 dans le cadre de votre travail? Joignez-vous à la brigade d'agents promotionnels de Leclerc Communication. On recherche des personnes énergiques, proactives et avec de bonnes habiletés communicationnelles pour représenter la station lors d'événements. Autrement dit, vous serez nos ambassadeurs sur le terrain. Rien de moins. Pour plus d'être au cœur de l'action de votre radio préférée, on vous offre un salaire ultra compétitif. Postulez pour le poste d'agent promotionnel sur lecarrière.fm.
Roulotte Surmel est prêt. L'êtes-vous? Choisissez parmi un impressionnant inventaire de roulottes de voyage, de parc et fifth wheel. Modèle 2022 et 2023 disponibles. Venez rencontrer nos spécialistes et réservez votre unité maintenant chez Roulotte Surmel. Pour un été inoubliable, Roulotte Surmel à Château-Richer.
Groupe Patrimoine a créé pour vous ses premiers condos locatifs dédiés aux 55 ans et plus. Les appartements, le Jules Verne, la vraie vie. Vous recherchez un environnement qui vous permet de profiter pleinement de la liberté? Découvrez les appartements Le Jules Verne à l'ancienne Lorette. Vous serez séduit par la piscine intérieure sur le toit, les chalets urbains et votre futur condo locatif. Ouverture en juillet. Promotion en cours? Appelez-nous au 88 440 8377. LeJulesVerne.ca.
L'application Boulevard 102.1. Un incontournable depuis au moins 4000 ans.
Je ne suis peut-être pas capable d'allumer un feu, mais j'ai tout ce qu'il me faut avec cette application. Et comme disait mon vieux père, roche et roule.
Appelez, textez, votez, réécoutez l'app Boulevard 102.1. Un incontournable. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Alors voilà, c'est tout pour moi pour ce jeudi soir. J'espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. Dans les prochaines minutes, ce sera les excellents podcasts de Boulevard qui vous seront présentés. Moi, je m'en vais faire un tour du côté d'un restaurant où j'achèterai une galvaude extra fromage, extra saucisse, extra sauce piquante. Que voulez-vous, c'est un jour de paye, il faut en profiter, il faut se gâter. J'espère que vous en ferez de même. Encouragez les restaurateurs d'ici, les restaurateurs de chez nous, les restaurateurs du coin. Il faut qu'ils restent là encore longtemps, longtemps, longtemps pour ce soir et cette nuit. Côté météo, c'est quelques nuages pour ce soir. Pas de précipitations de prévu, donc pas de pluie, pas de neige. Minimum de moins 8. Pour ce qui est de demain vendredi, ben là, c'est de la neige qui devrait débuter en après-midi. On parle d'un genre de 2 cm, sauf 5 cm si vous êtes dans le secteur nord. Donc entre 2 et 5 cm pour ce qui est de demain vendredi. Samedi, de la pluie intermittente, maximum de plus 2. Et dimanche, ben, ce sera de la neige avec un maximum de moins 2 degrés. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Bon podcast dans les prochaines minutes. Et nous, ben, on se revoit, ou on se rejase plutôt demain à 11h30 dans Marceau le midi. Ça a été un plaisir. Bye bye tout le monde. Ciao.
Marceau le soir.
Ainsi va la vie, c'est marre. Piscine et spa.
Plusieurs modèles de piscine hors terre disponibles pour une installation rapide en début de saison chez Piscine Beauport. Taux de financement réduit et plusieurs autres promotions. Venez nous rencontrer en succursale ou contactez-nous piscinebeauport.com.
Les sensations fortes sont à portée de main. La gamme Ski-Doo 2024 est maintenant disponible chez Adrenaline Sport et TY Moteur. Et tous les modèles sont maintenant sur la plateforme REV Gen 5. De plus, pour un temps limité, précommandez l'un des modèles 2024 sélectionnés et obtenez 2 ans de protection ou 750 $ de remise en pièces, accessoires ou vêtements. C'est toujours Tripas avec les modèles Ski-Doo 2024. Précommandez le vôtre chez Adrenaline Sport et TY Moteur et soyez garantis de le recevoir avant le début de l'hiver. Parce que chez nous, c'est Ski-Doo.
Venez voir le plus grand projet de condo locatif à Québec. Opal, par quartier Mosaïque, offrant piscine intérieure, gym et salle de yoga, golf virtuel, grand balcon, service à proximité, une fenestration abondante donnant sur le boisé. Opal condo locatif par quartier Mosaïque, votre nouveau pic de vie.
Vous souhaitez louer dans le secteur de Beauport? Vous devez visiter les condos locatifs La Station. Vous profiterez d'aires communes comme un lounge, un gym et une salle de billard. Vous êtes un amoureux de Beauport? Alors optez pour un bail à long terme à conditions avantageuses. Détails immeubleroussin.com.
Samedi et dimanche, Boulevard 102.1 vous plonge dans l'univers musical de Matt Marcotte et Reg LaPlanche. Volume à Blanche.
Un show storyteller avec deux gars qui en ont pas mal à raconter.
Moi et Reg, on jase un peu, mais on est une des émissions où on raconte le plus d'anecdotes, mais où, ultimement, on jase le moins.
Ouais, c'est vrai. On en a eu des rencontres avec des artistes, des histoires, des anecdotes. C'est ce qu'on veut partager avec vous.
Ne manquez pas le volume à Blanche, les samedis et dimanches, 16h, avec Reg LaPlanche et Matt Marcotte.
Boulevard 102.1.
Doux, fort, coloré, tordu. Des poils, il y en a toutes sortes. À l'Institut esthétique de Québec, on les épile définitivement et sans contrainte. Profite de la meilleure promo de l'année. Nos forfaits épilation sont à 40% de rabais. Évaluation sans frais à l'Institut esthétique de Québec. Salut, Nissan.
Ah, Karine, attache ta tuque.
Ah ben, j'ai pas de tuque.
Mais attache ton manteau d'abord parce que t'as devant toi le meilleur multisegment urbain selon le guide de l'auto, le Nissan Kicks 2023.
Wow! Ah, il est tellement le fun à conduire.
Pas juste ça, il vient avec plein de caractéristiques de sécurité et la meilleure cote de consommation combinée de sa catégorie.
Coudonc, il est parfait.
Ben, oui. Louez le Nissan Kicks S à partir de seulement 299 $ par mois pour 24 mois. En stock chez votre concessionnaire. Jusqu'au 31 mars, à compte de 995 $, valeur au détail de 22 968 $ sur approbation de crédit. Certaines conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Notre station Boulevard 102.1, qui porte les lettres d'appel CFL-FM et diffuse sur la fréquence 102.1 FM, procède actuellement à des tests de mise en onde à partir de son nouveau site d'émetteur situé au Mont-Bélair. Si vous éprouvez du brouillage en lien avec notre signal, nous vous invitons à signaler l'endroit problématique en nous laissant votre adresse ou code postal à l'adresse signal@blvd.fm ou à communiquer avec nous au 418-529-1021, poste 8444. Merci de votre collaboration. Un message de Boulevard 102.1, une propriété Leclerc Communication.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça. Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
Alors,
je te jure, hier, je mangeais la poutine de luxe, là. Puis, tu sais, la portion est quand même bonne. Je n'aurais mangé 4 jusqu'à temps que ça...
Max, parce qu'on est en onde, là.
On tape. OK. Hey, bienvenue tout le monde au troisième épisode du podcast La Dérape. Aujourd'hui, je sors un petit peu de mes sentiers battus. Vous savez, là, grand fan de sport, oui, mais surtout de hockey et de football. Peut-être un petit peu moins de basketball, mais je voulais quand même plaire aux nombreux amateurs là, au Québec de ce sport-là. Puis moi-même, je veux m'y intéresser davantage. Fait qu'aujourd'hui, je reçois deux boys là, qui s'y connaissent. On y reviendra. En attendant, je veux remercier la poutine qui rend la présentation de ce podcast-là possible. Je suis un grand fan des poutines de la poutinerie et il y en a des choix. On parle de 38 choix de poutines, 7 sélections de sauces, des variétés différentes. Là, il y en a plus de 260. Vous pouvez même créer votre propre poutine. Il y a un grand territoire de livraison si vous ne voulez pas vous déplacer sur place. Le service qui est rapide et de qualité. Les heures d'ouverture sont super cool aussi tous les jours à partir de 11h le matin. Dimanche ou mercredi, c'est ouvert jusqu'à 23h. Fait que pas de problème avec un petit creux de fin de soirée. Le jeudi, ça ferme à 1h du matin. Puis le vendredi, samedi, c'est ouvert jusqu'à 2h. Fait qu'en fin de soirée, après une coupe de petits verres, là, ça se prend toujours bien. Une bonne poutine, la poutinerie, c'est LA référence en poutine à Québec depuis 15 ans. 292 Marie de l'Incarnation, lapoutinerie.com. Bon podcast.
La dérape, c'est de l'émotion.
Hey, tu vas te péter à gueule, mon tabac!
De l'émotion.
Tu t'es fermé, tabac?
Ouais, ben de l'émotion.
Ah ouais!
La dérape. En direct de la passerelle, voici Max Larouche.
Come on, coach!
Une présentation de la poutinerie. Avec plus de 260 variétés de poutine au repêchage, t'as en masse de choix pour plusieurs rondes. Le plus grand choix de poutine à Québec, c'est la poutinerie.
Troisième épisode aujourd'hui du podcast La Dérape à Boulevard 102.1. Et aujourd'hui, ce ne sera pas une dérape du genre il va y avoir de la chicane dans le podcast. Du moins, je pense pas. C'est plus une dérape du genre on change de sport un petit peu. T'sais, depuis le début, on a parlé beaucoup de hockey, un petit peu de football aussi qui est venu faire son tour. Je pense qu'on a un peu jasé de baseball aussi, très très peu, mais quand même. Mais je voulais prendre le temps durant cette saison-là de podcast de prendre un épisode et jaser basket parce que personnellement, puis je l'ai jamais caché, là, le basket, c'est pas mon truc. J'ai pas vraiment écouté de basket dans ma vie, mais on a la chance d'avoir Reg Laplanche à Boulevard qui est lui quand même un pas pire fan de basket. Fait que j'ai dit, hey Reg, viens donc dans mon podcast de basket, alors que j'avais déjà invité le chum Jeff Fortin qui lui a une belle histoire à Boulevard 102.1. À la base, était un auditeur qui textait justement avec Reg, les deux qui jasaient de basket. Fait qu'aujourd'hui, je prends ces deux boys-là, puis j'essaie de faire un épisode où on va essayer d'intéresser peut-être des gens au basket, qui est un beau sport, qui peut être un sport super excitant, mais qui, j'ai l'impression, est peut-être encore un peu trop méconnu au Canada. Vous me corrigerez un petit peu plus tard si je me trompe, mais avant toute chose, bonjour messieurs.
Salut Max, tu t'y connais peut-être un peu moins en basketball, mais tu t'y connais en achat de vêtements en ligne. Donc, tu t'es grillé d'une bonne veste et casquette du Thunder d'Oklahoma City.
Non, c'est ça. À la base, je voulais devenir un fan de basket il y a à peu près un an. Puis je me suis dit, OK, première étape pour devenir un fan de basketball, ça me prend mon équipe. Je me suis dit, bon, il n'y a pas d'équipe à Seattle parce qu'au football, je suis un fan des Seahawks. Fait que je me suis dit, je pourrais suivre cette lignée-là au basket. Mais il n'y en a pas, ou il n'y en a plus, devrais-je dire, d'équipe à Seattle. L'équipe qui a déménagé à Oklahoma City, le Thunder, fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais m'équiper. Fait qu'en ce moment, je porte ma belle casquette du Thunder. Je porte une petite veste aussi qui m'a coûté beaucoup trop cher parce que je pensais que c'était un manteau. Mais ça, oui, mais ça, c'est une autre histoire. Jeff, ça va?
Ça va super bien, mais t'es vraiment thématique avec le Thunder parce que le meilleur joueur canadien à l'heure actuelle, Shai Gilgeous-Alexander, joue pour le Thunder.
Mais c'est ça parce que, tu sais, oui, je veux qu'on parle de basket, mais je veux surtout qu'on se concentre sur le basket ici au Québec, où on peut élargir au Canada, parce que j'ai l'impression que c'est un sport qui gagne à être de plus en plus connu. Tu sais, on parle beaucoup du hockey, qui est un sport qui coûte très, très cher. Tu sais, c'est notre sport au Canada, c'est notre sport au Québec, mais on voit beaucoup de monde se tourner vers le soccer chez les jeunes parce que ça coûte moins cher de jouer au soccer. Puis des fois, je me demande
pourquoi les jeunes ne se tournent pas plus vers le basket. Donc, on aura la chance de revenir sur, sur cette avenue-là, dans cette branche-là. Mais avant toute chose, Jeff, ça m'impressionne à toutes les fois que tu viens nous voir dans Rage Against le matin, parce que ça arrive souvent, là, quand on veut parler de sport, ben on fait appel à toi. Puis tu arrives en studio, puis tu sais, ça, les gens ne le voient pas, à moins qu'ils nous regardent sur Twitch, mais... T'as pas de feuilles, t'as pas de notes.
Et le Rain Man des sports.
Tu connais toutes les statistiques, les dates. Les... Puis je me demande d'où ça part, ça. Puis tu sais, oui, pour le basket, mais pour les sports en général, ça doit partir de ton jeune âge. Comment t'es tombé dans le sport de même, Jeff?
Écoute, j'ai toujours été un fan de statistiques. Puis tu sais, aussi jeune que je me souviens, là, j'ai 4-5 ans là, sur la table comme ça. Moi, les bonhommes de Star Wars puis les G.I. Joe, là, c'était des joueurs de hockey. Fait que je me faisais des matchs de hockey sur la table de la cuisine puis je comptais les stats. fait que Chewbacca, il faut finir la saison avec 12 buts, 14 passes, puis ainsi de suite. Donc, je me faisais 4 équipes avec un classement, tout ça. Donc, l'amour pour les statistiques est parti en très jeune âge. Puis après ça, c'est une autre époque.